Bonsoir. Pour la première fois dans l'histoire de la RDC, les résultats de l'examen d'État ont été publiés très rapidement. Seulement 3 jours après la fin des épreuves de 2025, le ministère de l'Éducation a dévoilé les premiers résultats de cette 58e édition. Les provinces concernées par cette publication initiale sont le Kasaï 1, le Haut-Katanga 1, Kinshasa Mwamba 2. Le ministère explique cette rapidité par plusieurs améliorations majeures. C'est notamment l'ouverture des nouveaux centres de scannage des copies dans le Kasaï oriental et le Haut-Katanga et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aider à la correction. Cependant, une certaine opinion estime que ces résultats ont été précipités et pourraient être faux. Cette rapidité plutôt est jugée suspecte par certains Congolais qui y voient une manœuvre politique avant la publication du nouveau gouvernement. Que pensez-vous de cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce jeudi 7 août 2025. Participe au débat Godfrey Talaboulou, conseiller en inclusion, genre et nouvelle citoyenneté au ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Monsieur Talaboulou, bonsoir.
Bonsoir, madame la journaliste. Bonsoir aux auditeurs de Radio Capi.
Jean Bosco Pouna, porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Jean Bosco Pouna, bonsoir.
Bonsoir, madame Kelly. Bonsoir aux auditeurs de la Radio Capi et bonsoir à monsieur le conseiller.
Avec nous aussi dans ce débat, Christian Tabarro, il est chercheur en intelligence artificielle. Monsieur Tabarro, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir aux auditeurs.
À Lubumbashi, dans la province du Katanga, vous nous suivez sur la 95.8. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur DSTV canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, le compte X et la chaîne YouTube de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, pour la toute première fois en RDC, les résultats de l'examen d'État sont sortis en un temps record. Seulement 3 jours après la fin des épreuves de 2025, le ministère de l'Éducation a publié les premiers résultats pour les provinces du Kasaï oriental 1, Haut-Katanga 1 et Kinshasa Mwamba 2. Le ministère justifie cette rapidité par l'ouverture des nouveaux centres pour scanner les copies et par l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aider à la correction. Cependant, cette annonce a suscité des doutes chez certains Congolais qui pensent que ces résultats sont faux. Enoch Katumbi.
Les résultats de l'épreuve des examens d'État 2025, rendus publics dimanche 3 août, ont été marqués par la célérité des publications. Selon la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, rapidité ne rime pas avec précipitation. Grâce à l'intégration des technologies innovantes, notamment l'intelligence artificielle, le processus de correction gagne en efficacité, fiabilité et objectivité. Les résultats publiés sont authentiques, vérifiés et les fruits d'un travail minutieux, loin des buzz médiatiques, mais au cœur d'une transformation silencieuse et profonde du système éducatif congolais, ajoute la ministre de l'Éducation nationale. Toujours selon le ministère, la ministre a initié la décentralisation du centre de correction de l'examen d'État, rapprochant ainsi les opérations d'escannage des cahiers d'items des candidats pour une évaluation plus accessible et équitable. Aujourd'hui, le scannage traite entre 80 et 160 items par minute, contre seulement 8 à 16 copies par minute les années précédentes. Cependant, malgré ces explications, certains Congolais sceptiques à ces innovations doutent de la fiabilité de ces résultats, ne comprenant pas à quel moment l'intelligence artificielle intervient alors que depuis près d'une décennie, la correction a toujours été automatisée.
Merci Enoch Katumbi, Godfrey Talaboulou, vous êtes conseiller en inclusion, genre et nouvelle citoyenneté au ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Alors, le ministère de l'Éducation a publié les résultats de l'examen d'État en un temps record. Cela a étonné beaucoup des Congolais. Comment cela a-t-il été possible, monsieur le conseiller?
Merci madame Kelly. Ce que nous avons fait, ce que le ministère a fait, est une conséquence d'une réforme menée depuis juillet 2024. Quand Madame Raissa Malou a été nommée à la tête de ce ministère, ça correspondait avec l'organisation de la 57e édition de l'examen d'État. C'était au mois de juillet. La nomination, c'était au mois de juin, mais nous avons commencé au mois de juillet. Et notre première grande activité était justement l'examen d'État. Ça nous a permis d'approcher cette institution de plus près. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'inspection générale. Et ce travail a suscité beaucoup de questions, mais aussi des défis que nous avons pensé relever pour améliorer la qualité du service public. En tant qu'agent de l'État, en tant que politique, notre mission principale, c'est de nous assurer que le service public qui nous a été confié, ici nous parlons d'éducation, soit constamment amélioré et accessible à la population. Donc la MINETA, Raissa Malou, s'est donné comme mandat de poser des jalons pour des réformes transformationnelles et structurantes de notre système, mais ne peut le faire qu'à travers des diagnostics, à travers des audits, à travers des états des lieux. Alors, en juillet 2024, on a approché l'inspection, on a vu des défis que cette inspection vivait pour faire un travail de qualité. Et ça, c'était sur instruction du chef de l'État, qui déjà, en son temps, demandait à ce que nous puissions veiller à la crédibilité et à la fiabilité des résultats issus des examens d'État. On est rentré, on a travaillé avec l'inspection générale pour mettre en place une batterie de réformes qui devrait optimiser les ressources, intégrer les nouvelles technologies de l'information et mettre en place des mécanismes pour l'édition 2025 qui permettra c'est qu'on réduise les failles, qu'on élimine les faiblesses que nous avions identifiées lors de l'audit et qu'on justifie la crédibilité et la fiabilité de ces résultats. Et donc c'est tout le travail que nous avons fait qui a abouti aujourd'hui à cette optimisation pour que nous ayons les premiers résultats en ayant 3 jours après la clôture des épreuves. Il n'y a pas de la magie. Le travail, et je tiens à dire aux parents et à toute l'opinion, que les résultats sont réellement vrais, permettez fiables et crédibles. Ils ne sont pas farfelus, ils ne sont pas inventés. Et c'est vérifiable pour ceux qui pensent qu'il faut mener un audit, ils vont rencontrer cette fiabilité et cette crédibilité.
Alors, monsieur le conseiller, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le processus de correction est une nouveauté pour nous en RDC. Est-ce que vous pouvez expliquer à ces nombreux auditeurs qui nous suivent concrètement comment elle a été intégrée pour assurer l'équité et l'objectivité?
Je vais aller directement à travers un exemple simple. Et ça va interpeller beaucoup, surtout pour nous qui avions passé les épreuves il y a beaucoup d'années. La correction, c'est toute une étape. Avant, nous n'avions qu'un seul centre de correction, ici à Kinshasa. Tous les items des 4 coins du pays étaient acheminés à Kin pour la correction. Les machines, parce qu'au début de l'émission, vous avez parlé d'un système automatisé depuis des années. Effectivement, le logiciel, les équipements, les scanners qui étaient à l'époque, ne permettaient que de scanner 16 items par minute. C'est la première chose. 2, quand ces scanners scannaient, arrivaient à une situation où un item, l'élève n'avait pas mis un code correct. Par exemple, un élève, en remplissant son item, a manqué un chiffre ou a confondu dans la case des chiffres. Cet item était déclassé par la machine, parce qu'elle ne reconnaissait pas ça. Ou un élève qui avait assuré ou noirci 2 cases en donnant double réponse, la machine ou le système, le logiciel de l'époque ne pouvait pas détecter cela et ça déclassait. Mais le travail qui était fait était que tous ces items-là étaient traités manuellement par l'humain. Et on se retrouvait avec plusieurs et il fallait aller chercher dans les mal retracer d'où vient cet item, le centre et tout. Et parfois, on abandonnait carrément. De moi, je suis fatigué, je laisse. Et on colle des points aléatoirement aux étudiants. Et aujourd'hui, quand des gens disent qu'à l'époque, nous avions des 55, c'était beaucoup, ils ne savent pas comment on corrigeait les examens d'État. Maintenant, quand on arrive, on optimise avec la nouvelle technologie et l'intelligence artificielle, on met en place un logiciel qui permet... 1. Quand les items arrivent au centre de correction, avant, pour que le scanner accepte les items, vous devez les classer la même face, la même série, la même matière, pour qu'il fasse le travail et permettre de passer à l'étape suivante. Si vous mélangez la physique à la biochimie, à la pédagogie, ça complique tout parce que les systèmes ne peuvent pas prendre en charge ces différents niveaux de structure, filières, matières, branches et séries. Et ça, c'était le gros travail des dépouillements. Donc, c'est comme ça que les dépouillements prenaient beaucoup de temps. Vous ouvrez les mâles, vous les classez par filière, par branche, par série, pour permettre à la machine de faire le travail automatisé. L'intelligence artificielle nous permet, on arrive avec un lot d'items. Peu importe la position, face, recto, verso, peu importe la série, peu importe la branche, vous les mettez dans le scanner. Quand il commence à scanner, directement, il classe à travers ces différentes séries, à travers ces différentes branches, à travers ces différents... Ça gagne énormément en temps. Quand il détecte que l'élève a mal écrit son code, il y a plusieurs paramètres qui lui permettent de retrouver, de retracer cet élève-là à travers d'autres éléments inscrits dans son item. En ce moment-là, on supprime cette option-là où on déclassait l'item et parfois on annulait les points de cet enfant pour lui donner des points de manière aléatoire. Voilà comment, pour ces deux exemples, l'intelligence artificielle nous a aidé à gagner énormément de temps parce que le travail de dépouillement est quasi éliminé. Le scanner fait tout, identifie, classifie et en même temps retrace à travers d'autres paramètres pour que l'équité dans les résultats puisse être établie.
Et ce travail a été fait pendant le week-end parce que les examens ont pris fin jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi on a déjà les résultats. Ça s'est fait pendant ces trois jours?
Non. Le travail a commencé dès les premiers jours des épreuves. Les épreuves ont commencé lundi et déjà à la fin de la journée de lundi, les items venaient déjà vers le centre de correction. Rassurez-vous, ici, il faut noter que les premiers résultats qu'on a publiés sont des résultats des centres qui sont dans les endroits où se sont situés les centres de correction. Donc, quand Bonsomi ou Boboto, le collège Boboto, qui est un centre, termine lundi, le même lundi, le chef du centre prend les items du premier jour, amène à Lingwala, où se trouvent les centres de correction de Kinshasa. Et automatiquement, les agents dans les centres commencent l'escanage. Et donc, ça c'est un de deux. Le centre a fonctionné 24 heures sur 24. Donc les agents font trois shifts, contrairement aux années avant où les gens travaillaient de 8 heures à 16 heures. Et donc, avec justement l'optimisation de machines ainsi que la nouvelle technologie, c'était plus rapide de finir l'escanage d'une promesse éducationnelle, par exemple, en une heure. Je donne un exemple simple, je vais chuter par là. Mohamba, qui était la première province éducationnelle à être publiée. Il y a environ 39 000 élèves dans cette province éducationnelle. Donc, nous avons 16 scanners dans le centre de correction de Kinshasa. Et nous disons qu'un scanner peut scanner entre 80 à 160 copies la minute. Donc, quand les 39 copies, la première journée, arrivent au centre, un seul scanner... En 60 minutes, vous scannez déjà 4800. En 10 heures du temps, vous scannez déjà 48 000, au-delà même des 39 qui est l'effectif de Mohamba. Maintenant, vous prenez 16 scanners. Donc, en moins de 30 minutes, on a déjà fini le travail de scannage et établi en ordre branche, filière, série. On a déjà tout ça. Maintenant, il faut faire le travail parce que les examens, ce n'est pas les 4 jours. Il y a la hors session, il y a les E13. Il faut croiser tout ça et il y a la délibération. Il faut corriger les items parce qu'il y a le travail humain, des corrections aussi, là où il y a des choses qui ne correspondent pas, des vérifications, je veux dire, pas des corrections. Alors, déjà, à la fin de la journée de jeudi, à 2 heures du matin, peut-être on avait déjà terminé le travail, et vous avez vendredi pour faire ce travail des vérifications, des croisements, et samedi, déjà l'après-midi, Mohamba avait terminé.
Et donc, toutes les personnes qui pensent que cette publication ultra rapide est une manœuvre politique ont tort.
Alors, il faut déjà dire que Mme Raissa Malou n'est pas politicienne. Et quand le chef de l'État a jeté sur elle son dévolu, il le savait pertinemment que je ne choisis pas un politicien ou une politicienne. Et puisqu'il a jeté son dévolu sur elle, je crois qu'il avait quelque part ce désir ardent de voir des transformations structurantes dans notre système éducatif. Parce qu'il croit en l'investissement en capital humain. Il sait pertinemment que l'éducation, c'est le socle du développement. On peut beau avoir un programme de développement, PNDC, ceci, mais si la population n'est pas éduquée, nous n'aurons pas l'âme de la nation, nous n'aurons pas à nous affirmer comme nation. Toutes les nations du monde se sont développées avec la recherche, avec l'éducation, avec les avancées en technologie. Et tout commence par la base. Voilà, donc elle n'est pas dans les débats politiques.
Merci monsieur Tsala Aboulou. Jean Bosco Pouna, vous êtes porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. En tant que syndicaliste, comment vous percevez cette publication très rapide des résultats de l'examen d'État? Est-ce une bonne nouvelle pour le système éducatif congolais? Jean Bosco Pouna, est-ce que vous êtes en ligne?
Merci madame pour la parole. Je voudrais d'abord, on est presque tenté de saluer cette performance du ministère de Madame la ministre de l'Éducation nationale. C'est vrai que les conseillers sont en train d'expliquer les différentes phases et les différents exploits qui ont été constatés. Bon, c'est vrai, il y a le recours aux nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, que nous ne pouvons pas nier aujourd'hui. Il faut absolument que nous allions vers cette modernisation. La décentralisation des sites de correction, c'est aussi une bonne chose. Parce qu'il est vrai qu'il y avait beaucoup d'encombrements et il faut absolument qu'on arrive à cette décentralisation. Je crois que jusque-là, les conseillers ont raison. Parce que lorsqu'on décentralise, eh bien, ça permet qu'on puisse accélérer dans le travail. Mais la question que moi je voudrais poser, quelles ont été les motivations au niveau du ministère de pouvoir publier les résultats avec ces records spectaculaires? 3 jours après, les résultats sont proclamés, sont publiés. Quelle a été ou quelles ont été les motivations? Alors, je reviens au niveau de différentes étapes de la correction. C'est vrai, il y a le travail qui était autrefois fait par l'humain, par l'homme. Ce travail est remplacé aujourd'hui par des machines, et ce qui est tout à fait une avancée qu'on ne peut pas nier. Les dépouillements, les scannages, la correction. Mais la partie qui m'inquiète un peu, c'est au niveau du jury, donc de la délibération finale. Est-ce que vraiment toutes ces étapes ont été respectées? La vérification, la validation, des transferts des résultats vers les réseaux de télécommunications. Donc, on ne sait pas trop au niveau de ces différentes phases. Entendez, le dépouillement, il a essayé d'expliquer comment les choses se sont faites, c'est-à-dire que les machines ont été capables de pouvoir classer tout ce qui était à l'envers. L'escannage et la correction, c'est l'intelligence artificielle, ça peut se comprendre. Bon, tout ça, il nous dit que c'est 30 minutes, 40 minutes, et pourtant ça peut prendre un jour, 2 jours, et puis la délibération, c'est là où se posent véritablement des problèmes. Donc, du point de vue des avancées, parce qu'il est vrai que le travail de l'examen d'État, c'est un travail lourd, difficile, délicat, du point de vue des avancées sur le plan technologique, je crois que ce sont des efforts qu'il faut louer. Mais maintenant, c'est une première expérience. Est-ce qu'on devrait, parce que c'est la première expérience pour notre pays, est-ce qu'on devrait se précipiter pour publier les résultats 3 jours après? Je crois que là, il y a un problème. Même si, au-delà de ça, il y a d'autres problèmes plus graves que nous allons devoir épingler. Mais en tout cas, la société congolaise, les parents, les enseignants, les élèves, nous avons besoin d'avoir plus de précisions. J'ai apprécié lorsque les conseillers disent qu'ils sont ouverts même à l'audit. Je crois que là, c'est une porte qu'ils ont ouverte et qui pourra être exploitée pour crédibiliser, fiabiliser ces résultats qui posent un véritable problème d'acceptation. Vous comprenez que l'examen d'État aujourd'hui, chaque année qui passe, eh bien, vient avec son lot de problèmes parce que simplement, ça a été politisé. Vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'inspection générale qui gère totalement l'examen d'État, c'est les cabinets politiques. Le serveur central se trouve au cabinet. Donc vous comprenez qu'on ne peut avoir que des suspicions pour que l'on puisse accepter très facilement les résultats. Mais en tout cas, les avancées technologiques, les innovations, ça nous acceptons, mais il faut absolument que le ministère nous explique d'autres questions qui continuent à préoccuper les Congolais.
Alors, vous avez parlé de cette étape hein, de délibération. Le conseiller va vous répondre juste après, après avoir donné la parole à notre expert de ce soir, Christian Tabarro. Mais avant cela, vous parlez de doutes, Jean Bosco Puna. C'est vrai que des rumeurs de résultats fabriqués circulent. Vous en avez sûrement entendu. Est-ce que à la cité où vous êtes, y a-t-il des remontées des terrains qui confirment ces inquiétudes?
Bon, mais vous savez, à la cité, il y a de plus en plus des élèves, c'est tout. Les problèmes que nous allons rencontrer sont les problèmes des élèves qui échouent. Mais nous, en tant qu'experts, nous, en tant qu'éducateurs, nous qui savons comment, parce que nous avons appris l'évaluation, vous savez que l'évaluation, c'est une étape qui ne se gère pas dans la précipitation. Que ce soit dans nos classes, que ce soit au niveau de la grande évaluation qui est l'examen d'État, eh bien, ces choses se gèrent en toute responsabilité. Donc, tout en acceptant l'approche que le ministère a prise, notamment celle de pouvoir faire gérer cet examen par toutes ces données que nous venons d'évoquer, que les conseillers venaient d'évoquer, mais il y a quand même des doutes sérieux. Nous n'avons pas encore le mécontentement de ceux qui ont participé à l'examen d'État, parce que les résultats continuent à sortir. Mais laissez-moi simplement vous dire, analyser, classer, scanner, corriger, et puis délibérer, parce que dans la délibération, il y a l'analyse, la vérification et la validation. Donc, ces étapes-là, il faut absolument qu'on les prenne au sérieux parce que c'est la vie des élèves.
Merci.
Donc, si les ministères pensent que toutes ces étapes-là ont été prises en toute responsabilité, eh bien, je crois que lorsque l'audit, et nous allons les réclamer, va devoir descendre, eh bien, on aura à préciser toutes ces questions.
Merci Jean Bosco Poulon, on vous garde encore dans cette émission. Christian Tabarro, vous êtes chercheur en intelligence artificielle. En tant qu'expert, est-il techniquement possible pour une intelligence artificielle de corriger des millions de copies en si peu de temps, tout en garantissant un haut niveau de fiabilité?
Merci d'abord pour la parole. En fait, c'est totalement possible pour un système. Pour un système de corriger plusieurs copies. Mais là n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est au niveau de la fiabilité. Je vais m'expliquer où j'irai plus clair. Aujourd'hui, les différents systèmes d'intelligence artificielle que nous avons n'ont pas encore atteint une certaine maturité. Une maturité pour dire que voilà, elles peuvent nous donner des résultats totalement sûrs, totalement fiables et qui n'a plus besoin d'une supervision humaine. Ça n'existe pas pour le moment.
Donc on peut douter quand même oui. De ces résultats.
On peut douter, je ne dirais pas des résultats, mais c'est que nous, en tant que citoyens congolais, nous aimerions avoir la méthodologie qui a été appliquée. La méthodologie derrière cette intelligence artificielle, pas le processus. Le processus de capture des items, des scannages, tout ça, c'est du blablabla actif. Mais maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est la partie cerveau. Qu'est-ce qui s'est passé derrière pour classifier chacun des items? Comme le conseiller vient de le soulever, c'est que avant les systèmes qui étaient existants avaient tendance à tout simplement exclure tout item dont l'identification n'était pas bonne. Maintenant, elle peut accepter cela. L'autre question qui m'est venue à l'esprit, c'est bon, si on l'a testé, où sont les notes qui ont été publiées avec les expérimentations qui prouve que nous avons au moins 80-90% de précisions qui ont été bonnes et 10% d'échecs. Ou 5, ou avec les 10% d'échecs, comment est-ce qu'on fait pour y pallier? Tous ces différents points. Nous, personnellement, à Sycamore, nous sommes posés cette question. On s'est dit, oui, l'intelligence artificielle, oui, c'est bien. Mais on n'aimerait pas être surpris. On aurait aimé avoir une note qui serait publiée par le ministère au départ pour dire que la méthodologie va changer. Voilà une nouvelle méthodologie. La méthodologie traditionnelle, on la connaît. Nous avons confiance au correcteur qui est passé par un système éducatif qui a une certaine capacité intellectuelle, une certaine capacité émotionnelle pour corriger et voir qu'il y a eu une erreur humaine et pour donner un résultat. Mais qu'en est-il d'un système ?
C'est justement la question d'un auditeur, Fabrice, qui nous suit depuis Mongafula, qui demande si on peut vraiment se passer d'un contrôle humain dans ce genre de processus.
Je dirais, en fait, je pense que je l'ai soulevé une fois récemment. On ne peut pas se passer d'un contrôle humain. L'humain reste primordial dans ce processus. L'humain reste le seul superviseur de l'outil. Ça, c'est clair. Mais faire confiance à l'outil à 100%, c'est une erreur grave, parce qu'il a tendance à halluciner. C'est la vérité. Et si on peut produire des résultats avec autant de rapidité, nous aimerions, personnellement, en tant que scientifique, j'aimerais bien voir cette white note, cette note blanche, qui nous explique la procédure, la méthodologie de classification de ce cerveau, de cette intelligence artificielle, pour qu'on comprenne, pour que les questions que nous avons soient dissipées.
Alors, que pensez-vous des accusations selon lesquelles les résultats pourraient être fabriqués ou manipulés par l'intelligence artificielle ?
En tant que scientifique, je ne peux pas donner d'avis pour le moment tant que je n'ai pas encore vu un document.
Mais vous émettez quand même des doutes ?
Personnellement, un doute raisonnable. Un doute raisonnable.
Alors, vous allez rester en ligne avec... pas en ligne, vous allez rester... vous allez garder la parole. Christian Tabaron, on va ouvrir les standards pour donner la parole à ces auditeurs qui sont nombreux à nous suivre à travers toute la République et même en dehors de la RDC. On va se rendre, on va aller à Kisangani, oui, à Kisangani, dans la province de la Tchopo, pour écouter cet auditeur qui est déjà en ligne.
C'est M. Blaise Saïd Atoub depuis Kisangani. La publication rapide des résultats peut être un signe d'efficacité, mais elle doit être encadrée par des garanties, des rigueurs, des transparences et d'équité. Une telle vitesse n'a de sens si elle ne sacrifie pas la qualité et la justice dans l'évaluation des élèves. Quels sont les avantages et les risques liés à l'automatisation de la correction? Quelle est la réaction des parents, enseignants et élèves face à cette publication rapide? Y a-t-il eu des contrôles indépendants, c'est-à-dire observateurs, syndicats, société civile, lors du processus?
Alors, par rapport à la dernière question, je crois que c'est le conseiller qui va répondre à ça, mais les avantages et risques liés à l'automatisation de la correction. Vous l'avez dit, hein, mais pour une meilleure compréhension, il a peut-être
en fait, l'avantage primordial, c'est le temps. Quand on automatise, c'est le temps, on économise en ressources. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, comme l'auditeur a soulevé, faut trouver un équilibre. Parce qu'une telle rapidité signifie qu'on a sacrifié quelque chose. Une telle lenteur veut dire qu'on a sacrifié peut-être le temps, parce que ça passe par des êtres humains. Mais une telle rapidité cache quelque chose. Aussi, bien sûr, le gap, ça a été résolu. On aimerait savoir quel est ce gaps, comment on l'a fait, parce que personnellement, c'est quelque chose à acclamer si ça a été fait, et je pense que c'est une méthodologie qui peut être appliquée partout en Afrique, si elle est correcte et elle a suivi toutes les étapes, en fait.
Alors, monsieur le conseiller, vous allez commencer par la dernière question de l'auditeur. Y a-t-il eu des contrôles indépendants, observateurs, syndicats, syndicalistes, société civile, lors du processus?
Bon, je voudrais recadrer ou peut-être clarifier une chose pour nos auditeurs. L'intelligence artificielle n'a pas corrigé les items. Comme l'a dit
Monsieur Tabaro,
il y a eu une supervision permanente des techniciens, de l'homme si je peux dire. Et pour répondre directement à Monsieur Pouna, effectivement, toutes les étapes que vous connaissiez traditionnellement du processus de correction de l'examen d'état ont été suivis jusqu'à la délibération. Pour votre information, la délibération a eu lieu en bonne et due forme avec des PV et c'est vérifiable. Je dis ici que les nouvelles technologies acquises et associées à l'intelligence artificielle nous ont permis d'optimiser les ressources, de contrôler les failles qui existaient dans les systèmes avant et de nous assurer que la vérification humaine ne pèse pas sur les individus à qui on confie cette responsabilité ou cette charge. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui a fait tout le travail, parce qu'il y a, je l'ai bien dit, avec ces scanners, on pouvait terminer le même jeudi à 2h. Et quand vous terminez, Déjà vendredi matin, on pouvait publier les résultats. Mais on a publié les résultats mardi. On a annoncé les lauréats dimanche. Mais les résultats, c'est lundi, je crois, dans l'après-midi ou dans la soirée qu'on a publié. Donc, tout ce temps jusqu'à la délibération, c'est le travail des vérifications et des contre-vérifications. Et c'est là où l'humain intervient, d'une manière ou d'une autre. Seulement, on facilite. Je crois que là où on a maximisé le temps, c'est dans les dépouillements. Pour répondre, peut-être pour parler des avantages ou de contrôle des syndicats, c'est maintenant, peut-être que, comme je l'ai dit, les gens qui pensent, les acteurs qui pensent qu'ils n'ont pas confiance en ce résultat peuvent initier un audit. C'est un service public, on ne va pas leur refuser ça. Mais la réforme, quand elle est pensée, elle implique tous les acteurs. Quand nous avons cheminé dans le développement d'un autre conceptuel de l'optimisation des ressources de l'inspection, nous avons travaillé avec tous les partenaires éducatifs. Quand nous avons inauguré les centres de correction dans les trois provinces, nous avons été accompagnés par les syndicats. Donc, les différentes étapes, même l'idée même de la réforme, a été communiquée par nos acteurs éducatifs. Et les médias ont couvert ces différentes étapes-là. L'intelligence artificielle n'est qu'un des outils utilisés, mais ce n'est pas l'outil central qui nous a produit les résultats. Non. Parce qu'il fallait ramener les items, il fallait les mettre dans les scanners. C'est dans les
systèmes. Donc, l'humain était présent.
Justement, l'humain était présent tout le long du processus jusqu'à l'achat. C'est juste les. Alors, pour répondre, c'est pourquoi nous avons publié dans trois jours. Mais quand vous terminez le travail, pourquoi attendre? Pourquoi attendre? On n'avait pas de raison d'attendre. Mais nous savons pourquoi les gens, dans les passés, attendaient. Et c'est l'un des problèmes qu'on a voulu résoudre. Parce que ça a entamé la crédibilité et la fiabilité des résultats. Nous connaissons les phénomènes.
Alors, il y a un auditeur, Timothée Bokeh, qui nous écrit depuis Bondoundou. Il y a beaucoup de questions des Congolais qui nous parviennent. Alors, il dit ceci, la réaction des Congolais sur la rapidité avec laquelle les résultats sont publiés et fondés malgré l'intégration de l'intelligence artificielle. En effet, après chaque session, il faudra déposer le rapport global du déroulement de l'examen d'État durant les 4 jours. Ce rapport s'effectue généralement le 5e jour, c'est l'auditeur qui nous écrit. Alors, deuxièmement, l'affichage des noms des membres du Centre national des corrections, les procès-verbaux des délibérations de la correction, l'addition des points de l'épreuve hors session, autrement appelée dissertation, la comparaison entre les points obtenus à l'examen d'État et ceux de l'école, de tout ce qui précède, nous, population, pensions que la publication de la nouvelle équipe gouvernementale impacterait sur cette publication précipitée des résultats. Même si tous ces préalables pouvaient être réunis à temps, il aurait fallu attendre un peu, même une semaine après la date de la passation pour ne pas créer cette polémique.
Il n'y aurait pas l'annonce de son Excellence sur le Président de la République, le chef de l'État, sur le remaniement du gouvernement. Je veux rassurer l'opinion qu'on publierait ces résultats-là dans les délais prévus, parce qu'il y avait un plan de publication déjà arrêté par l'inspection générale. Et l'annonce est intervenue quand? Peut-être un vendredi. C'était deux jours après la fin des épreuves. Et nous avions déjà des résultats de Moamba. Nous avions déjà les résultats des centres de Lubumbashi. Donc, c'est vraiment indépendamment. Et puis, à un moment donné, on doit arrêter de politiser un service comme l'éducation. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, le plan de publication était déjà arrêté. Et après, toute la réforme a commencé depuis 2024. Et nous arrivons au bout. Nous couronnons cela en rendant public les résultats. Quel intérêt nous garderons cela en attendant un remaniement quelconque du gouvernement? Parce que nous sommes dans un service public. Que la Mineta quitte ou pas, l'inspection fera son travail. On ne change pas l'inspection parce qu'on est des agents de l'État. Et c'est l'inspection qui travaille, ce n'est pas la Mineta.
On va prendre cet autre auditeur qui nous appelle depuis Béni au Nord. Ça sera pour vous, Jean Bosco Puna.
Stoïque Ngurumbura, depuis la ville de Béni, province du Nord Kivu. Nous saluons la bravoure de la ministre Raïssa Malou. Cette publication rapide des résultats de l'exécutat 2025 est une conséquence de sa vision éclairée. Elle a décentralisé les centres de correction et rénové la technologie en associant l'intelligence artificielle. Étant donné que les résultats publiés jusque-là sont ceux des provinces éducationnelles qui logent les centres de correction, nous sommes certains que ces résultats sont réels. Les résultats seraient fabriqués si ces résultats seraient venus de l'intérieur, car notre pays fait face à un grand défi de transport.
Alors, Jean Bosco, pour une brève réaction.
Oui, mais je crois que nous l'avions dit au départ que les avancées sur le plan technologique doivent être saluées. Ça, rien à faire. C'est pour le système. Madame Raïssa est ministre aujourd'hui. Demain, peut-être qu'elle s'en ira. Mais le système va devoir rester. Donc, du point de vue des avancées technologiques, nous sommes tout à fait partants. Nous sommes tout à fait d'accord. Seulement, les différentes questions, les différentes préoccupations, tout à l'heure, l'expert en intelligence artificielle nous a démontré que l'intelligence artificielle n'a pas encore réuni tous les éléments de fiabilité. Et surtout que pour nous, c'est la première expérience. Donc, je pense, à mon point de vue, qu'il était vraiment temps de pouvoir expérimenter, mais en toute responsabilité. Peut-être qu'on va devoir décliner la méthodologie qui avait été utilisée et les experts vont véritablement comprendre. Alors, si je reviens un peu sur la question qui a été posée par rapport à la politique, je crois que même là, c'est peut-être faire des faux calculs, parce que la nomination du gouvernement, mais cela dépend du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est lui qui pense, qui veut mettre la personne, l'animateur qu'il faut. Je crois que de ce côté-là, on peut, si véritablement les ministères pourraient aller dans ces calculs-là, ça serait un faux calcul. Mais je ne crois pas que le cabinet misait sur cela. Ce qui nous importe ici, c'est la vie de notre jeunesse, la vie de nos jeunes. Parce que quand nous les avons formés, il faut également qu'ils soient correctement évalués. Si les avancées technologiques demain peuvent se consolider, se crédibiliser, je crois que c'est un acquis que nous ne pouvons pas réfuter.
Alors, Christian Tabaro, il y a un auditeur, François, qui nous suit depuis Malemba, en Koulou, qui demande quels sont les prérequis pour une utilisation efficace et équitable de l'intelligence artificielle dans un contexte comme celui de l'examen d'État en RDC.
Moi, je crois qu'il y a des étapes préalables qui devaient être faites avant que nous arrivions à cette étape.
Lesquelles, hein?
Moi, en tant que... Si je me mets à la place d'un parent, j'aimerais bien savoir comment est-ce que l'évaluation des examens se feront. Et quand il y a une nouvelle méthodologie, j'aimerais savoir comment est-ce que cette nouvelle méthodologie se fera. Bon. Le conseiller a soulevé un point, que l'intelligence artificielle n'était qu'un outil qu'on a rajouté. Mais on va poser une question importante. Et si cet outil avait une faille? Et si seulement? Une simple supposition. Il y a eu la validation humaine, mais on est d'accord, à cette vitesse de 3 jours, on n'a pas pu vérifier 100 000 items en 3 jours. Ou, je veux dire, 50 ou 80 000 items, avec autant de précision. On aurait eu besoin de beaucoup plus de temps. Moi, je soulève seulement cette question. Et si, les conséquences seront beaucoup plus graves. Ainsi, avant de mettre une technologie d'une pondération aussi élevée dans le marché, il y a des étapes préalables, des expérimentations. Nous avons plusieurs universités. Nous avons testé ceci, nous avons X résultats. Nous avons eu 80-90% de résultats ici. Et voilà comment on pense pallier aux 10% des résultats. Et je ne pense pas que ça ne nécessite pas une audite. Parce que ce sont des informations qui relèvent... C'est un cadre public. Il n'y a rien de secret, rien de défense, rien de sécurité nationale. Ce sont des informations qui devaient être publiées avant la publication des examens, des résultats. Ça devait être publié. On devait savoir comment. Et si la méthodologie était mauvaise, plusieurs personnes allaient contester cela avant qu'elle ne soit faite. On ne va pas publier et puis dire, bon, constater plus tard. C'est compliqué ça. Okay. Si c'est une réforme qui a commencé depuis 2024, je pense que les méthodologies devaient être publiées depuis bien longtemps. Donc, voilà quoi. Moi, je pense qu'il y a un souci de fiabilité au niveau de l'outil qui fait partie du processus. Si une personne est une faille dans une chaîne, il y a beaucoup de chances que la chaîne se brise. Donc.
Réaction, monsieur le conseiller.
Oui, effectivement. Je comprends les inquiétudes. Et jusque-là, ce sont des si. Ça relève justement des inquiétudes, mm-hmm. de l'opinion. Et c'est important qu'on ait cette remontée. Mais je voudrais dire ici, encore une fois de plus, vous avez une imprimante ou un scanner qui scanne 10 copies. Vous en achetez un autre qui scanne 100 copies. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que la méthodologie a changé? Ou c'est juste l'optimisation? Vous avez un scanner qui demande, avant de scanner, de reconnaître la copie, il faut mettre la partie écrite en face sur le scanner. Et vous achetez un autre scanner qui dit, peu importe la forme, là vous placez les papiers, ça va scanner, vous aurez les informations. Qu'est-ce qui a changé? La méthodologie ou l'optimisation? C'est ça en fait le travail que nous avons fait. Nous n'avons pas enlevé l'homme de bout en bout. Il y a, et comme l'a dit le spécialiste, il y a eu toujours une supervision humaine. Il s'agit de l'éducation ici. Nous ne sommes pas...
même dans la correction, même dans le calcul points.
La correction n'a jamais été, vous l'aviez dit au début ici, où on donne des inspecteurs, on prend des items, il dit cet élève, il a assuré 10, je mets dans les papiers 10. Ça n'a jamais été comme ça. Même dans, c'était des systèmes où ces mêmes items étaient scannés avec un système qui permettait justement de détecter les bonnes et les mauvaises réponses et de faire des sommations. Mais seulement, on a optimisé ce système en y ajoutant justement l'avantage des nouvelles technologies, y compris l'intelligence artificielle. La procédure reste la même, comme M. Jean Pouna disait, seulement là où ça prenait plus de temps parce qu'il fallait acheminer les items vers Kinshasa, on a décentralisé les centres. Là où il fallait passer des semaines à dépouiller pour classer, pour que les scanners reçoivent, on a facilité avec l'intelligence artificielle qui reconnaît le papier, peu importe sa forme. Mais le reste, c'est l'homme qui fait le travail. C'est même les moyennes, parce que les points de diplôme, c'est pas les points de QCM de 4 jours. Il faut prendre les A13 de l'école, il faut prendre la hors session qui, du reste, sont des examens aussi traditionnels où les enfants font de la dissertation, ils répondent à des questions par des QCM. Et ça, c'est pas l'intelligence artificielle qui va aller mettre tout ça là-bas. Ça, tout ça est mis dans la procédure et en optimisant à travers l'outil que nous avons pu acquérir. Voilà un peu.
Alors, nous sommes presque à la fin de l'entremission. Je vais vous donner la parole pour conclure. Il y a Joël qui nous suit depuis ma campagne, monsieur le conseiller. La rapidité des publications ne concerne que 3 provinces pour le moment. Pourquoi ces provinces ont-elles été choisies comme pilotes et quand peut-on s'attendre aux résultats des autres provinces?
Exactement. Ça répond déjà à la question et à la peur même des parents. Pourquoi on n'a pas publié tous les résultats de toutes les provinces? Parce que la procédure est la même. Il faut que les mâles arrivent au centre de correction. L'idéal aurait été qu'on ait dans chacune des provinces un centre de correction pour éviter les défis de transport liés à nos voies de communication déjà limitées. Alors, les provinces dont les résultats ont été publiés sont justement ces provinces qui hébergent les centres de correction. Je donne un exemple. Bobote, c'est à la Gombe. Les items de Bobote pour arriver à Lingwala, c'est 15 minutes. Et quand les items sont là, maintenant avec l'outil optimisé, on peut rapidement faire le travail. En une heure, terminer le scannage, maintenant procéder au travail des vérifications, double vérification, jusqu'à la délibération, comme l'a décliné M. Pouna à travers la procédure. Donc, on avait l'avantage de finir ces centres-là. Et maintenant, aujourd'hui, Lukunga, qui est une grande province éducationnelle et dont les items étaient déjà arrivés depuis le premier jour, ont procédé au traitement. Aujourd'hui, on a publié pour Kinshasa Lukunga. Mais on n'a pas publié ça au même moment avec Mohamba. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas aller dans la précipitation. Vous faites une province, vous vérifiez. Vous contre-vérifiez, vous assurez que, pour répondre à M. Tabarro, que tout est OK. On aurait dû finir Kinshasa, ensemble avec Mohamba. On l'a pas fait. Même chose pour Mbunjimayi. Aujourd'hui, on publie Kabea Kamwanga. Mais Madame Kelly, entre Kabea Kamwanga et Mbunjimayi, c'est 45 minutes de voiture. Donc les items sont arrivés le même jour. Mais on n'a pas publié ensemble avec Mbunjimayi, ou Chilenge, ou Lupatapata. C'est parce qu'il y a un travail des vérifications. On s'assure, parce que nous avons une seule mission, la fiabilité et la crédibilité des résultats. C'est ça, c'est sur ça qu'on va nous juger.
Justement, on vous juge surtout sur la fiabilité avec l'introduction de l'intelligence artificielle. Monsieur le conseiller Jean Bosco Pouna, je vous donne la parole pour conclure, hein, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Je crois que c'est une bonne chose. Que le système éducatif congolais puisse réellement progresser dans le sens de pouvoir bien gérer l'évaluation certificative, notamment l'examen d'État. Ce que je voulais demander au ministre, c'est qu'elle puisse être ouverte à un audit par des spécialistes pour fiabiliser son travail, parce que nous avons besoin de pouvoir sauvegarder cet acquis, mais aussi nous voulons qu'elle donne des réponses à ces deux agences privées hein, qui sont au niveau de l'inspection, qui font le travail que l'inspection devrait faire. Je crois que si elle réussit à faire ça, ça sera une bonne chose. Et puis, il faut absolument qu'on remette la gestion de l'examen d'État à l'inspection générale parce qu'elle est capable de pouvoir faire ça. Elle avait prouvé cela pendant de longues années.
Merci Jean Bosco Pouna. Christian Tabaro.
Comme mot de fin, je dirais que, monsieur le conseiller, vous avez soulevé que c'était plus une optimisation qu'une intelligence artificielle. Moi, je crois que si c'est une question d'intelligence artificielle, il est important que les méthodologies soient publiées. Pas une audite. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens ou le temps d'attendre une audite. Publier les résultats, publier les méthodologies, s'il n'y a rien à cacher dans les processus. Cela va fiabiliser, va soulever des questions et va soulever des doutes. Ou dissiper les doutes. Si c'est une optimisation, nous aimerions aussi le savoir. Comment est-ce qu'on a optimisé? Comme vous l'avez dit, la mission principale, c'est de fiabiliser les résultats que vous fournissez à la fin. Donc, moi, je pense qu'il est important que nous ayons ces processus, ces méthodologies, afin de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, voilà.
Merci, Christian Tabaro. Votre mot de la fin, monsieur le conseiller.
Avant mon mot de la fin, je voudrais quand même insister. J'ai entendu plusieurs fois monsieur Jean Bosco pour en revenir sur la gestion de l'examen d'État. Monsieur Pouna, c'est toujours l'inspection générale qui gère l'examen d'État. Il n'y a pas une autre direction ou un autre service qui est en charge de cette question. Et vous avez même parlé du serveur qui se trouvera au cabinet. Moi, je suis au cabinet. Je serais très très curieux de vous recevoir pour que vous me montriez où se trouve ce serveur-là. C'est pas responsable de véhiculer au sein de l'opinion des informations erronées. Ça ne nous honore pas et ça ne nous sert pas, ça nous dessert au contraire, parce que nous donnons une mauvaise image, surtout aussi bien localement qu'à l'international, de ce bien, de ce patrimoine qu'est l'éducation. Mon mot de la fin, et je voudrais apaiser les parents, parce que là, je parle au nom de son Excellence Madame Raissa Malou, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. C'est une personnalité connue, de par sa probité morale, de par sa technicité. Elle a reçu une mission de chef de l'État. Elle a une passion pour l'éducation et pour la RDC. Elle ne peut en aucun cas saper ce système éducatif qu'elle chérit tant. Nous reconnaissons que l'œuvre humaine peut être imparfaite. C'est comme ça que chaque jour, nous travaillerons avec toutes les parties prenantes pour améliorer. Donc, si il y a des craintes, si il y a des recommandations, nous sommes ouverts, et j'en ai reçu ici de la part de Monsieur Tabaro, nous allons les transmettre à qui de droit. Si il y a des choses qui pourraient davantage rassurer les uns et les autres, pourquoi pas ne le faire? Parce que nous tous, nous sommes là pour le même bien commun qu'est l'éducation. On n'a rien à cacher. Et c'est pour les biens de nos enfants, voilà.
Merci, monsieur Godfrey Talaboulou, conseiller en inclusion, genre et nouvelle citoyenneté au ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine, Enoch Kiatumbi, Nelson Nyombe, Billy Betou et Alain Goy. Présentation et coordination, Kelly, écoutez, vous avez été très nombreux à nous suivre sur le compte X et la chaîne YouTube de Radio Capi. Restez branchés sur la fréquence de la paix.